Bonjour à tous et merci aux auditeurs de Radio Capi pour leur fidélité. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo. Avec nous depuis Goma, le porte-parole militaire de la mission, le lieutenant-colonel Claude Raoul Djeongo, et à mes côtés, ici à Kinshasa, le représentant de l'UNICEF, Edouard Bagbédé. D'abord, je voulais vous indiquer que, comme vous l'avez certainement vu, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rencontré le président Félix Tshisekedi en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Ils ont évoqué la situation politique et sécuritaire dans le pays et la région, ainsi que le soutien de la MONUSCO en matière de gouvernance, de sécurité et de protection des civils. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougui, a conclu hier une visite de deux jours dans les Kasaï, à Kananga et Chikapa. Elle était accompagnée notamment de son adjoint, le coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies, David McLachlan Carr, pour des discussions axées sur les priorités de la MONUSCO pour le renforcement de l'autorité de l'État et des fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la police, la justice et l'administration pénitentiaire en particulier, ainsi que pour la réintégration des anciens membres de groupes armés. La représentante a rencontré le gouverneur du Kasaï central, Martin Kabuya Mulamba Kabitanga, ainsi que le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé Toutokot, et elle a également rencontré des représentants de la société civile et de la communauté humanitaire. Justice, police et réconciliation sont fondamentales pour pouvoir accompagner les Kasaï sur la voie du développement. Madame Zerougui a également visité le centre Mpokolo wa Muyo à Kananga, qui a accueilli de nombreux enfants associés à la milice des Kamuinensapu et travaillé à leur réunification avec leurs familles et à leur réintégration dans les communautés. C'est un centre qui est d'ailleurs soutenu par l'UNICEF. Madame Zerougui a souligné la nécessité de soutenir une réintégration communautaire des membres de groupes armés qui ont rendu les armes. Les communautés qui les accueillent doivent recevoir un appui, notamment des agences fonds et programmes des Nations Unies, pour garantir que les bases d'une stabilité durable sont posées. La représentante souligne la nécessité de créer des opportunités pour la population des Kasaï afin de soutenir la paix et la réconciliation pérenne des communautés par le développement. La réintégration communautaire dans les Kasaï a également été au cœur des discussions que Mme Zerougui avait eues samedi dernier avec le président Félix Tshisekedi. Le président et la représentante ont aussi discuté notamment du nouveau mandat de la MONUSCO et du dialogue stratégique à engager entre la MONUSCO et le gouvernement vers un retrait responsable et durable de la MONUSCO. Toujours concernant les Kasaï, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a participé à la présentation d'un rapport remis la semaine dernière au gouverneur du Kasaï central et au ministre provincial de la Justice et des Droits de l'Homme, présentant les résultats de consultations populaires pour la justice, les réparations et la prévention de nouveaux conflits dans la province. Une majorité des personnes qui ont participé à ces consultations ont recommandé des procédures judiciaires efficaces pour toute personne accusée de violations graves avant toute initiative de réconciliation, et ce, afin de servir de leçon pour l'avenir. Le rapport est disponible sur le site drcongo.un.org. Dans l'Ituri, la MONUSCO a participé au lancement hier, aux côtés des autorités de la province, du processus de dialogue entre les communautés Lendu et Alour. Ce dialogue s'est concentré sur deux problématiques en particulier, deux récentes incursions d'assaillants depuis Djougou dans des communautés Alour à Mahagi, ainsi que la reprise de violences entre les communautés Walendu-Watsi et Angal. Les communautés se sont engagées à un ensemble d'activités, de consultations et de mesures de protection des civils pour la stabilisation de la zone entre les territoires de Mahagi et les territoires de Djougou. De son côté, la MONUSCO s'est engagée à continuer de soutenir techniquement et logistiquement ce processus. Enfin, je voulais vous signaler que la représentante spéciale du secrétaire général, Leila Zerougui, présente ses sincères condoléances à la famille d'un casque bleu tanzanien mort hier dans un accident de la route dans le Nord Kivu, ainsi qu'au gouvernement de la République unie de Tanzanie. Je passe sur ce la parole à mon collègue militaire, le lieutenant Claude Raoul Djeongo, à Goma. C'est à vous.
Mesdames, Messieurs, amis auditeurs, bonjour. Je commencerai par les informations au quartier général de la force pour dire que le nouveau commandant de la force, le général Costa Neves, qui a pris service le 28 janvier 2020, n'a pas attendu de finir les formalités administratives avant de se mettre corps et âme dans l'exécution de sa charge. Du 4 au 5 février 2020, il s'est rendu à Beni pour s'imprégner de la situation réelle sur le terrain. Il a en outre rencontré le major général Fall, commandant la 3e zone de défense des FADC, à qui il a assuré sa disponibilité à collaborer franchement dans la lutte contre les groupes armés. Les principales informations sur la situation sécuritaire par région se présentent comme suit. Dans la province de l'Ituri, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les territoires de Djougou, Mahagui et au sud d'Irumo. Le repli des combattants de leur site de pré-cantonnement dénote d'une crise de confiance et pourrait faire le lit à une reprise des actes de violence envers les populations civiles. Dans le territoire de Bénin, la force poursuit son soutien indéfectible aux FRDC dans leurs offensives contre les ADF. Ces derniers, acculés à l'est de Bénin, se sont dispersés dans la forêt pour se retrouver dans la zone au nord-ouest de Bénin, où de nombreuses actions en guise de représailles ont été perpétrées contre les civils. C'est ainsi que le 9 février 2020, aux environs de 22h30, une action conjointe lancée par les ADF a permis aux FRDC d'appréhender 40 combattants des ADF près de Makeke et de les amener à la base des FRDC à Mangina. Cette action, qui intervient en réaction au meurtre des civils à Makeke dans la même soirée du 9 février, démontre, s'il en était encore besoin, la détermination et l'engagement de la MONUSCO et des FRDC à unir leurs forces contre les ADF et à assurer la protection de la population dans la région de Bénin. La MONUSCO, avec les FRDC et la police nationale congolaise, effectue de robustes patrouilles dans Mangina et ses environs. La population de Bénin et celle de Mangina en particulier sont invitées à aider, à apporter leur soutien en dénonçant sans délai toute activité suspecte afin que davantage d'ADF puissent être appréhendés avec succès. Dans la même veine, hier 11 février 2020, aux environs de 20h, une position des FRDC a été attaquée à Mbao par les ADF. La prompte réaction d'une section de la brigade d'intervention de la MONUSCO, qui a déployé un renfort pour soutenir les FRDC, a permis de mettre en déroute les assaillants. Par ailleurs, les personnels de la MONUSCO précédemment déployés à Simoliki ont été relevés le 10 février 2020 par une compagnie FRDC qui assure désormais la sécurité et le contrôle de la localité et ses environs. Cette opération permet entre autres à la force de redéployer ses personnels dans la région de Mamobé pour y assurer la protection des civils. Dans le reste de la province du Nord Kivu, la force s'attelle à limiter les exactions perpétrées contre les civils. De nombreuses patrouilles de dissuasion ont été effectuées notamment dans les localités de Matenda, c'est à 27 km au nord-ouest de Sake, Vichumbi, Katsiru et dans la région sud-ouest du lac Édouard, dans le but de protéger les civils. Dans la province du Sud Kivu, la persistance des actions des groupes armés dans le territoire de Kalehe et celle des Maïmaï qui exercent une autorité parallèle, de même que la résurgence de la violence dans la région de Mikenge, demeure une source de préoccupation majeure. Le commandant de la force y est depuis hier en visite opérationnelle pour constater de près la situation sur le terrain et préciser sa vision en ce qui concerne la protection des civils. Enfin, il convient de mentionner la réduction de 631 éléments appartenant à divers groupes armés depuis le début de l'année 2020. Je voudrais aussi saisir l'occasion que m'offre cette conférence de presse pour porter un démenti formel aux allégations mensongères qui circulent depuis peu sur certains réseaux sociaux et qui accusent la MONUSCO de soutenir des groupes armés, en l'occurrence les ADF. Les affabulations du genre n'ont d'autres objectifs que de jeter le discrédit sur la MONUSCO afin de mieux manipuler les populations pour défendre des intérêts inavoués. Il y a également une vidéo qui circule depuis le 9 février et qui laisse entendre que les troupes de la MONUSCO quittent Mangina et délaissent la population civile alors que la situation sécuritaire reste instable dans la région. Je voudrais préciser qu'il s'agit bien entendu des troupes de la force d'intervention de la brigade, notamment des contingents sud-africains et tanzaniens, qui sécurisaient les humanitaires à Biakato dans le cadre de la lutte contre Ebola et qui quittaient la région pour Bénin. La base de déploiement temporaire de Biakato est désormais remise aux troupes uruguayennes de la MONUSCO, Biakato étant dans le territoire de l'Ituri, leur zone de responsabilité. La FIB, force d'intervention de la brigade, continue donc d'organiser des patrouilles conjointes avec les FARDC dans la zone de Manguina dans le cadre de la protection des civils. Voici ce qu'il en est de la situation sécuritaire dans la zone de déploiement de la force. Je vous retourne l'antenne. Merci.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel. Je voulais également vous indiquer, toujours sur la situation dans le territoire de Béni, que le Haut Commissariat aux réfugiés a exprimé sa vive préoccupation concernant l'aggravation de la situation, où la violence a déjà forcé plus de 100 000 civils à fuir leur foyer ces deux derniers mois. Des attaques menées par des groupes armés depuis décembre dernier contre un grand nombre de villes et de villages dans la chefferie de Watalinga, près de la frontière avec l'Ouganda, ont déplacé des femmes, des hommes et des enfants vers la ville de Nobili et ses environs. Les civils, y compris les personnes déplacées en novembre et décembre, comptent parmi les cibles des groupes armés, y compris les ADF. La majorité des personnes qui ont été forcées de fuir lors de cette dernière vague de violence sont désormais hébergées par des communautés d'accueil locales de la ville de Nobili ou dans des écoles et des églises surpeuplées aux alentours. Par ailleurs, des milliers de civils vivent dans des conditions effroyables dans une centaine d'installations informelles, dormant dans des huttes fabriquées à l'aide de branchages. La semaine dernière, le HCR a d'urgence distribué des bâches en plastique pour aider 3000 familles déplacées. Nous vous rappelons que plus de 5 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées en RDC, ce qui représente la plus importante situation de déplacement interne en Afrique. Le HCR recherche 150 millions de dollars pour répondre aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées en RDC en 2020, mais n'a reçu que 4% de ce montant à ce jour. Enfin, juste une petite indication concernant Ebola. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se réunit tout à l'heure, cet après-midi, à Genève, pour évaluer si l'épidémie Ebola en RDC continue de constituer une urgence de santé publique de portée internationale. Je vous invite donc à suivre leur délibération. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à notre invité, qui est le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Edouard Bagbédi.
Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, avec vous et avec vos auditeurs respectifs. Aujourd'hui, nous sommes le 12 février 2020 et cet après-midi, au niveau du board de l'UNICEF à New York, sera discuté et j'espère approuvé le nouveau programme de coopération entre l'UNICEF et la République démocratique du Congo. Ce nouveau programme de coopération pour la période de 2020 à 2024 entre l'UNICEF et la République démocratique du Congo vient au soutien aux priorités du gouvernement. Il a été effectivement aligné avec le plan national stratégique de développement, avec les priorités du nouveau gouvernement, ainsi que différents plans de réponse humanitaire et du nouvel plan des Nations Unies sur les 5 prochaines années. Ce programme, en tout cas sa vision, c'est que les enfants en RDC, spécialement les plus vulnérables, dans les provinces les plus diminuées et dans des contextes humanitaires, auront un accès équitable, de qualité et durable aux services sociaux de base. Donc l'UNICEF va naturellement continuer à travailler dans 6 aires qui sont spéciales et importantes pour le développement des enfants: la santé, la nutrition, l'eau, l'éducation, la protection et enfin l'inclusion sociale et la résilience. Au niveau de la santé, nous allons définitivement continuer à supporter les efforts qui ont été faits sur la vaccination. Nous avons fait une étude dernièrement qu'on appelle le mix, et je vais me servir de pas mal de ces chiffres lors de cette discussion aujourd'hui, mais on a vu que uniquement 35% des enfants en RDC avaient reçu tous les antigènes de la vaccination de routine. Et donc, notre but, c'est effectivement que dans les 5 prochaines années, nous puissions amener cette couverture à un minimum de 60%, voire plus, grâce à beaucoup d'interventions en termes de s'assurer que les vaccins sont disponibles au niveau du pays et que l'on puisse vacciner les enfants. Nous avons eu une bonne nouvelle par rapport à ce début de programme, dans le sens où la mortalité, même si elle reste élevée, a diminué en RDC. Dans les années 60-70, un enfant sur 4 n'atteignait pas l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, même s'il reste élevé, c'est un peu moins d'un enfant sur 10 qui atteint l'âge de 5 ans. Donc ça, on mesure ainsi les progrès faits, mais aussi l'importance de continuer dans le domaine de la santé et particulièrement de l'immunisation et de la nutrition. Nous avons aussi en RDC uniquement une source sur 3 qui est améliorée. Et là aussi, il y a des efforts considérables au niveau de l'eau et de l'assainissement à être faits au niveau du pays. Un autre chiffre qui participe à la mortalité infantile, c'est 42% des enfants congolais sont malnutris. Et donc, il y a de grands efforts à travailler sur la nutrition dans les années qui viennent. Nous avons noté des progrès assez importants au niveau de l'enregistrement des naissances, où nous sommes passés de 25% des enfants enregistrés à 40%. Mais de nouveau, ça veut dire que le verre est à moitié vide ou moitié plein, et donc il faut continuer l'effort dans ce domaine. Et puis, une réalité qui est malheureusement sur laquelle nous devons travailler, notamment avec la société civile et le gouvernement, sur un changement de comportement, 29% des jeunes filles sont mariées et deviennent mères avant l'âge de 18 ans, et on peut noter même jusqu'à 8% de jeunes filles de moins de 15 ans sont mariées. Et ça, c'est un réel problème qu'il faut réellement, dans le prochain Country Program, travailler ensemble pour essayer d'éradiquer ce problème. On voit aussi qu'un quart des enfants travaillent ou ont des activités qu'ils ne devraient pas avoir à leur âge. Et naturellement, l'école est la réponse à cela, et c'est en cela où on soutient l'engagement du gouvernement de la gratuité scolaire, qui nous paraît une façon d'éliminer l'engagement des enfants dans le travail, et ainsi que le mariage précoce des jeunes filles congolaises. Nous allons aussi appuyer au niveau notamment de la santé, le ministère au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé. Et c'est très, très important de parler du niveau décentralisé, parce que nous avons naturellement une structure étatique qui travaille au niveau national, mais aussi au niveau des 26 provinces, sur des paquets d'interventions multisectorielles, dont je viens de parler un petit peu auparavant, mais aussi sur la réponse aux épidémies. L'UNICEF soutient le gouvernement et ses partenaires, notamment dans la réponse sur Ebola, sur la réponse de l'élimination du choléra, la polio, ainsi que la rougeole, qui a été une mauvaise nouvelle en 2019. Pour ce faire, il y a des stratégies à mettre en place, notamment travailler et renforcer les systèmes et les engagements communautaires. Il faut travailler vraiment avec au niveau des zones de santé, au niveau des groupements, des communes, pour avoir le meilleur impact possible et faire le lien entre ce niveau et le niveau provincial et national. S'assurer de la redevabilité sociale, c'est-à-dire comment les maires peuvent connaître où ces enfants peuvent se faire vacciner, recevoir des certains soins pouvoir mettre ses enfants à l'école ou les enregistrer, mais aussi pouvoir dire si jamais ce n'est pas le cas. Et comment assurer cette redevabilité sociale et cette communication à double volet. Enfin, il faut travailler naturellement et pouvoir répondre, avoir des réponses rapides au niveau des urgences, en utilisant un peu plus les agences nationales. Il nous semble aujourd'hui que le tissu d'acteurs nationaux s'est développé et qu'il faut le renforcer et renforcer cette capacité. Cela va aussi avec toute la discussion internationale sur travailler différemment avec les acteurs nationaux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je souhaite insister. Ainsi que une réponse rapide doit aussi faire un lien et une transition avec une certaine forme de stabilisation et aller vers le développement. Et c'est là où je pense, dans chacune des provinces, nous allons développer avec chacun des gouverneurs un programme Nexus. Nous allons naturellement appuyer le programme Nexus dans le Kassai et qui a été lancé par le coordinateur résident. Mais nous allons aussi avoir dans chacune des provinces des pilotes pour que chaque province puisse avoir un dialogue autour de ça et essayer d'avoir une meilleure discussion avec au niveau local et faire le lien avec le niveau provincial, avec, comme je l'ai dit, un renforcement des systèmes, un engagement communautaire, une redevabilité sociale et une coordination des partenaires au niveau local. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais suivre, mais sachez que le 27 février nous allons supporter le lancement par le ministère du plan et le coordinateur résident toutes les datas du mix. Donc c'est le document que j'ai ici près de moi qui donne tout l'état des indicateurs sociaux au niveau des 26 provinces. Donc c'est un exercice que l'on a fait avec le ministère du plan. Cela faisait déjà quelques années qu'on n'avait pas ce genre de données, mais surtout c'est la première fois que nous avons ces données au niveau des 26 provinces. Donc c'est vraiment une baseline très importante pour pouvoir mesurer les résultats. Il est important que les progrès qui ont été effectués ces dernières années puissent continuer et surtout être accélérés. On peut vraiment, grâce à certains programmes, faire une différence. Et c'est là où les programmes sur la gratuité et l'accès pour tous les enfants à l'éducation, ainsi que la couverture sanitaire universelle, sont des programmes importants. Finalement, je voulais aussi indiquer que dans ce nouveau programme de pays, nous allons avoir un nouveau regard sur les problèmes urbains. Au vu de l'explosion démographique, quelque part, que connaît ce pays. J'ai travaillé ici en 1995-1996, et je crois qu'entre 1996 et aujourd'hui, la population a doublé. À l'époque où je travaillais ici, il y avait à peu près 41 millions de personnes d'habitants. Aujourd'hui, on parle de 85. Donc, il y a une vraie urbanisation qui a lieu en ce moment. Et comment accompagner cette urbanisation? Comment aussi intégrer les changements climatiques dans la façon de programmer? Et puis, réellement, prendre en compte beaucoup plus le secteur privé, qui commence à fleurir au niveau du pays, et se concentrer aussi sur des programmations sur les adolescents. Les adolescents et leur employabilité. C'est-à-dire qu'il faut naturellement un enfant qui est vacciné, un enfant qui étudie, mais il faut aussi, lorsqu'il devient adolescent, qu'il arrive jusqu'au marché du travail. Et comment l'accompagner, quel type de partenariat nous devons créer au niveau du pays, avec le secteur privé, la société civile, le gouvernement, pour accompagner ces adolescents vers leur âge adulte. Merci.
Merci beaucoup. On va commencer avec une question laissée à Kinshasa pour notre invité, s'il vous plaît. Monsieur.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour la compte de Planète Télévision. Monsieur le représentant de l'UNICEF, votre soutien à Ebola au niveau de l'Est du pays, vous avez identifié combien des enfants et vous avez cadré votre soutien à quel niveau par rapport à cette maladie? Merci.
Okay. Je prends plusieurs questions.
Allez-y. Oui.
Alors, au niveau de l'Ebola, l'UNICEF répond et en soutien, je dirais, de l'OMS qui est en première ligne sur différents volets. Le premier volet, c'est la communication. Tout ce qui est autour de la communication, des risques liés à la maladie. C'est très, et ça a été très important et un des piliers de la réponse, à savoir que les gens savent de quelle maladie il s'agit et comment s'en protéger. Le deuxième élément sur lequel l'UNICEF a particulièrement travaillé, c'est toute la dimension psychosociale. Donc, à savoir, une famille qui a été, un membre de la famille qui a été contaminé, cela a des effets sur les autres membres de la famille, sur les membres de la communauté, et il y a une prise en charge psychosociale de ce fait. Il y a aussi pour les enfants, lorsque leur mère est contaminée, à un moment où on ne sait pas encore s'ils sont contaminés ou pas, nous avons ouvert des centres pour enfants juste à côté des centres de traitement pour qu'ils soient pas qu'ils soient proches de leur mère ou de leur père, et avec des berceuses qui elles-mêmes sont des survivantes, donc elles ne peuvent pas passer la maladie, le temps de voir si l'enfant va la développer ou non. Si elle la développe, ils vont directement au centre qui se trouve de côté de la rue ou non. Donc, comme je dis, la communication, le côté psychosocial, et puis toute la partie sur la prévention des infections, notamment à travers l'eau et l'assainissement. Donc il y a eu un programme assez important qui a été développé là-dessus. Donc ça, ce sont nos trois efforts particuliers sur la réponse de l'Ebola, sachant que l'OMS fait la vaccination, la surveillance et d'autres aspects de l'épidémiologie et d'autres aspects de la réponse. Il y a aussi un autre aspect sur lequel l'UNICEF a travaillé avec les communautés. C'était grâce à l'engagement communautaire, nous avions beaucoup de discussions avec les communautés qui nous disaient « Mais pourquoi vous venez uniquement pour l'Ebola ?» L'Ebola a eu des répercussions sociales au niveau de nos communautés. Vous nous demandez de vous laver les mains, mais il n'y a pas d'eau. Vous nous demandez de se vacciner contre l'Ebola, mais plus personne ne vient sur la rougeole ou sur le choléra ou sous d'autres aspects. Donc nous avons développé ou renforcé des programmes existants pour s'assurer qu'il y ait une réponse, qui existait auparavant, qui allait continuer et qui même allait se renforcer, pour aussi que les communautés voient que ce n'est pas uniquement l'Ebola, c'est aussi la santé, c'est aussi le fait que les enfants doivent continuer à aller à l'école. Dans des villages où il y avait l'Ebola, les parents ne voulaient plus envoyer les enfants à l'école. Donc il y a eu tout un programme autour de ça pour s'assurer que de la continuité scolaire au niveau de l'Ebola. Et c'est vrai que sur cette année et demie, par exemple, il n'y a pas eu d'infections connues qui se sont passées au niveau des écoles. On a appris à tous les élèves, enfin on ne l'aura pas appris, ils savaient déjà, mais renforcer les messages sur l'hygiène, renforcer les messages sur comment la maladie se propage et quoi faire si jamais cela se passait.